que ve això tinc de
ja. Digo de Radio France Internacional.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilhac.
Mira.
Pour répondre à la question, la guerre commerciale entre Pékin et Washington serait-elle finalement un choc des civilisations? Alison Heard, de la rédaction en anglais.
Hello.
À propos de ces conseillers municipaux britanniques qui risquent de ne plus se présenter aux élections en cas de Brexit. Et puis Adriana Moises, de la rédaction brésilienne. Pour nous parler de la grève nationale dans les écoles et les universités au Brésil. Bonsoir à vous toutes, mais avant cela, intéressons-nous à la préparation des élections européennes qui auront lieu dans une semaine. Adriana, vous revenez d'un reportage à Budapest. Comment avez-vous jaugé la campagne en Hongrie ?
La propagande contre l'immigration du Fidesz, les partis du premier ministre ultra-conservateur Viktor Orbán, occupe tout l'espace médiatique là-bas. L'opposition a du mal à percer. J'ai rencontré le directeur de la ONG Helsinki Group, Gábor Gyulay, qui donne assistance juridique aux migrants, qui d'ailleurs il n'y en a pas en Hongrie, à Budapest surtout, ils sont dans la frontière avec la Serbie. Et vous allez écouter ce qu'il dit de la société hongroise en ce moment.
La société húngara est dans une apatie démocratique très forte.
Que dit Gábor Gyulay?
Gyulay parle brésilien parfaitement. Il explique que la société hongroise est dans une apathie démocratique très importante. Et ce que les ONG essayent de faire, c'est de convaincre les jeunes à ne pas accepter la xénophobie, qu'ils doivent comprendre qu'il faut lutter pour la démocratie, pour les droits de l'homme, puisque ce système d'Orban, il veut dire, peut changer. Il a peur que la politique d'Orban contre l'immigration gagne de l'ampleur en Union européenne avec le nouveau Parlement. Au même temps, il dit qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir.
Alison Heard, au Royaume-Uni, la situation est plutôt cocasse. Comment participer aux élections européennes quand on va quitter l'Union européenne, sachant que les sondages donnent en tête le parti eurosceptique de Farage?
Oui, exactement. Donc, le nouveau parti du Brexit, mené par Farage, est largement en tête, avec, paraît-il, 34% de soutien, loin devant le parti travailliste avec 21%, et les conservateurs n'ont que 11%. Et pour explication, parce que je suis sûre que ça vous intéresse
bien
beaucoup,
sûr.
Il a réussi à se vendre comme le sauveur, le gardien du résultat du référendum de 2016, dans lequel, pour rappel, la majorité, 17,4 millions de personnes ont voté pour le Brexit. Il serait, selon lui, le seul capable de mener à bien le divorce avec l'Union. Alors, les déçus du Brexit, ceux qui attendaient à ce que la Grande-Bretagne quitte l'Union le 29 mars comme prévu, sont, et ça se comprend, en colère. Ils en veulent au gouvernement. Farage est d'ailleurs très habile, il est plutôt éloquent, il est souriant, il a mené une campagne très énergique déjà. Il profite d'un message très confus de la part des travaillistes sur le Brexit. Ils ont du mal à se positionner. Et bien sûr, il y a une confusion totale chez les conservateurs.
Alors, vu du continent maintenant, comment est-ce que l'UE observe ce qui se passe en ce moment avec donc cette victoire supposée des eurosceptiques?
Oui. Ben, c'est un peu kafkaesque quand même. Vous vous souvenez peut-être qu'au mois de mars, Farage a imploré des représentants européens de refuser de prolonger le Brexit, la date du Brexit. Il disait, vous ne voulez pas que je revienne quand même. Voilà, et effectivement, il ne voulait pas. Alors Guy Verhofstadt, qui est une figure très importante à Bruxelles, qui n'est pas à une blague près, il a tweeté le week-end dernier, Farage a siégé au Parlement à Bruxelles depuis très longtemps, mais il est... il a l'un des plus bas taux de participation. Il préférait pointer et puis aller au pub pour se battre, au lieu de se battre pour les intérêts des Britanniques en Europe.
Alors on verra ce qu'il en est en Chine en quelques instants, mais Adriana Moises, dites-nous d'abord si au Brésil, il est question de ces élections européennes.
La presse brésilienne en parle peu, puisque c'est encore loin et les Brésiliens ne connaissent pas très bien les fonctionnements des différentes institutions de l'Union européenne, les poids du Parlement, la Commission, de la Commission, du Conseil. C'est très complexe, on remarque, hein, même pour les Européens, parfois. Ah,
qu'est-ce qui attire beaucoup l'attention?
Ce qui attire l'attention, c'est l'ascension, bien sûr, des partis populistes d'extrême droite. Les magazines d'affaires ont publié des notes cette semaine disant que ces forces politiques-là pourront éventuellement changer l'orientation du Parlement européen. Jusqu'à présent, la plupart des députés étaient des droites, des centres, des gauches, mais on s'attend à une plus grande polarisation, dit la presse brésilienne, dans les prochains 5 ans en Europe. Pour ce qui concerne les pays, la presse brésilienne montre pour l'instant ce qui se passe en Italie, l'Italie de Matteo Salvini, la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban et les Royaumes-Unis, bien sûr, à cause du Brexit.
Et est-ce que tout cela a finalement un rapport avec le fait que Jair Bolsonaro, le président brésilien, est de la même tendance politique que l'Italie et la Hongrie?
Tout à fait. Les ministres brésiliens des Affaires étrangères viennent de faire une visite en Italie, en Hongrie, en Pologne, des pays avec qui le gouvernement brésilien veut afficher dorénavant une proximité idéologique. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont la double nationalité et qui peuvent voter dans ces élections européennes. Pareil pour la grande communauté hongroise et italienne au sud du Brésil. Le premier ministre Viktor Orban compte particulièrement avec les votes des 150 000 Hongrois qui vivent au Brésil pour un pays petit comme l'Hongrie, avec moins de 10 millions d'habitants, une diaspora très importante. Ça compte beaucoup pour les Fidesz, les partis d'Orban, et ils ne méprisent pas ses électeurs.
Les Brésiliens sont donc intéressés par ce qui se passe en Europe en ce moment. Est-ce que c'est également le cas de la Chine, Hermine Roumilhac?
En fait, c'est un peu comme au Brésil, parce que c'est loin, parce que c'est compliqué. Donc, en fait, la presse chinoise en parle peu, parce que voilà, c'est, même les Français, les Européens ne comprennent pas trop. Mais le résultat de cette élection aura, on le sait, un tel impact sur l'avenir de l'UE. Mais on a l'élection des futurs dirigeants de Conseil de l'Union européenne, tout ça, ainsi que la politique menée dans le futur par les pays membres. Donc, il est difficile à imaginer que le gouvernement chinois, il reste indifférent, parce qu'à part l'intérêt commercial, la stabilité de l'Europe est très importante pour la Chine. L'Europe est, on sait, le contrepoids pour Pékin face à Washington. Donc, au contraire, on pense que Pékin surveille de très près cette élection.
Et il faut se souvenir que le Parlement européen n'a pas toujours été très tendre avec la Chine.
Non, en fait, vous avez raison. L'actuel Parlement européen est devenu très, très, très critique vis-à-vis de la Chine après des années d'inaction. La montée en puissance d'économie, l'ambition démesurée d'investissement de la Chine dans le monde entier alerte enfin les membres de l'Union européenne, en fait, parce que la Chine achète un peu partout en Europe, achète tout ce qui l'intéresse. Donc, l'ancien Parlement européen regardait la Chine encore comme un pays en voie de développement, donc personne n'a fait attention à ce qui se passe en Chine. Et là, avec l'arrivée de nouvelles routes de la soie à la porte de l'Europe, en Grèce, en Portugal, tout ça, donc ça commence à alerter vraiment les dirigeants européens.
Le Parlement européen a voté plusieurs accords visant la Chine ou en cherchant l'union face à la Chine. Qu'en est-il? Est-ce que les députés ont fait leur travail, bien sûr, mais est-ce que ça marche vraiment?
Parmi les accords, on peut citer les filtrages des investissements directs étrangers. L'investissement de la Chine inquiète beaucoup. Il y a aussi le 5G de Huawei, etc., etc. Ça marche pas tellement comme on sait, parce que la plupart des accords signés par le député européen ne sont pas contraignants. Donc chaque pays regarde ses propres intérêts. On prend par exemple le 5G. On sait que le Pays-Bas a dit clairement non, mais la France et l'Allemagne sont en attente, et la Grande-Bretagne, qui va bientôt peut-être sortir, a donné déjà le feu vert avec condition pour l'installation de Huawei dans son pays.
Ces élections au Parlement européen suivies par toutes les rédactions de Radio France Internationale. Vous écoutez Accent du Monde.
This is Radio France International. Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Mercredi dernier, c'est une marée humaine qui envahit les rues des grandes villes du Brésil. Des centaines de milliers de personnes, d'enseignants, d'étudiants ont déferlé pour défendre les universités menacées par d'importantes coupes budgétaires. Adriana Moïses, le président Jair Bolsonaro, est ainsi confronté aux manifestations les plus importantes depuis son arrivée au pouvoir. Et pour seule réponse, il a insulté les manifestants.
Tout à fait, Philippe. Mercredi dernier, Bolsonaro n'était pas au Brésil. Il était en déplacement à Dallas, aux États-Unis. D'ailleurs, une visite qui a tourné au fiasco. Et depuis le Texas, où il devait recevoir un prix de la Chambre des commerces États-Unis-Brésil, il a dit que la plupart des manifestants étaient des militants qui n'ont rien dans la tête. Ce sont des idiots utiles, des imbéciles qui sont utilisés comme masse des manœuvres d'une minorité rusée, a-t-il dit devant la presse qui les suivait à Dallas. En effet, l'annonce soudaine de cette coupure de 30% du budget de l'éducation a créé une contestation très très large parmi les étudiants, les enseignants, les travailleurs du secteur, les parents d'élèves et bien au-delà. Les témoignages d'étudiants en sciences humaines ou en doctorat inquiets pour leur avenir, leurs recherches, ont sonné comme un cri d'alarme sur la menace que ces coupures représentent. C'est l'avenir du pays qui est en jeu.
Il faut rappeler que les grandes universités au Brésil sont financées par l'argent public. Hein.
Oui, depuis la création des quotas pour les étudiants de banlieue, elles sont beaucoup plus accessibles aux couches populaires et moins réservées à l'élite brésilienne. Mais comme Bolsonaro fait à chaque difficulté, il a accusé les gouvernements précédents de gauche d'avoir détruit économiquement les pays comme s'ils n'avaient pas de choix. À part tailler dans l'éducation, ses propos insultants et maladroits, évidemment, ont été accueillis avec une colère sur les réseaux sociaux et sur les rues. Les manifestants ont répliqué avec des pancartes où on pourrait lire des livres, oui, des armes, non, en référence aux politiques pro-armes de Bolsonaro.
Est-ce que le gouvernement a été surpris par l'ampleur de cette contestation?
Oui, tout à fait. C'est qu'il y a, dans une large mesure, aidé à massifier la contestation, c'est le gouvernement lui-même. Bolsonaro et son ministre de l'Éducation ont décidé de politiser à outrance cette coupure budgétaire. Eux-mêmes sont en train de polariser la situation sociale et politique autour de l'éducation au Brésil, Philippe.
Vous avez recueilli un témoignage, un professeur de philosophie de l'Université fédérale de Bahia.
Oui, oui, je vous propose d'écouter Daniel Pérez. Il a créé ces mois-ci une pétition en ligne pour la défense de l'université publique qui a recueilli plus d'un million de signatures en moins d'une semaine.
Pessoas que intellectualmente, por assim dizer, orientam o governo, são pessoas que realmente consideram...
Il dit que les gens qui dirigent les gouvernements intellectuellement considèrent vraiment que l'université est un espace à combattre, à détruire, car il est évident que là où il y a une vie intelligente, il ne peut qui avoir une opposition à ces gouvernements, car c'est un gouvernement obscurantiste.
Est-ce Philippe. Qu'on peut interpréter ces manifestations comme une poussée de fièvre? Est-ce que ça peut compliquer l'action du gouvernement de Bolsonaro?
Oui, les gouvernements traversent une forte dispute interne entre les différents alliés qui les composent, l'aile dite idéologique autour de ses enfants, ses fils, et les présidents lui-même, et l'aile dite militaire. Bolsonaro est confronté à des sérieuses difficultés au Congrès pour faire approuver des réformes, surtout celles des retraites. En plus, son fils, Carlos Bolsonaro, est impliqué dans un vaste scandale de blanchiment d'argent mêlé aux milices.
La situation est loin d'être apaisée. Adriana Moïse de la rédaction brésilienne de RFI. Venons-en à cette guerre commerciale entre Pékin et Washington qui tape sur les nerfs des financiers, fragilise l'économie mondiale. On se demande qui en sortira gagnant. Hermine Rumilac de la rédaction chinoise, certains y voient déjà un choc des civilisations, pas moins?
Oui, avant de parler de choc des civilisations, je vais peut-être parler un peu des faits pour nous mettre un peu dans le contexte. Donc, la guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine a déjà duré presque un an. Donc, le 10 mai, à la veille de l'arrivée d'une délégation chinoise pour le 11e tour de négociation à Washington, le président américain a créé la surprise totale en annonçant tout d'un coup, sur Twitter d'ailleurs, qu'il allait augmenter le taxe des produits chinois à 25% au lieu 10. Donc, pour cause, il a dit que la Chine a modifié unilatéralement le projet de l'accord signé par les deux pays. Donc, voilà. Et la bourse a complètement chuté en Chine en un jour. Et ce mercredi...
Il y a la politique également, hein, géopolitique.
Il y a géopolitique, oui, parce que...
Ça concerne la mer du Sud.
Il y a la mer de Chine, le détroit de Taïwan, il y a le discord entre Pékin et Washington dans le problème de Corée du Nord. Nord de Venezuela et récemment sur l'Iran aussi. Donc, en un mot, cette guerre commerciale et douanière dépasse largement les enjeux commerciaux. C'est pour ça, c'est peut-être pour cette raison qu'une diplomate américaine très importante a ressorti récemment la théorie de choc de civilisation.
Oui, les mots sont très forts.
Oui, oui. Donc, en fait, le choc des civilisations est une théorie politique très controversée, inventée par un professeur à Harvard, Samuel Huntington, excuse-moi pour l'accent. Donc, c'est un nouveau modèle conceptuel pour décrire le fonctionnement des relations internationales après l'effondrement du bloc soviétique à la fin des années 1980. Donc, le 29 avril dernier, en évoquant les tensions avec la Chine, le directrice de pôle de réflexion stratégique au département d'État, en fait, c'est équivalent du ministère des Affaires étrangères en France, qui s'appelle Kieron Skinner. Il a souligné que c'est la première fois que son pays faisait face à un rival puissant qui n'est pas blanc. Donc, elle qualifie le rival entre la Chine et les États-Unis de compas face à une civilisation et une idéologie différente.
Comment la Chine réplique ?
Bien sûr, la presse de la Chine sont très en colère. Donc, ils ont jugé que c'est une mentalité de guerre froide aberrante et dépassée. Donc, cette théorie reflète l'inquiétude croissante et les surréactions très excessives chez certains responsables politiques américains sur comment faire face à une Chine en plein essor. Et peut-être ce hasard de calendrier, ce jeudi à Pékin, il y a eu, en grande pompe, bien sûr, la conférence des dialogues des civilisations des pays asiatiques.
Donc, et le président chinois s'est exprimé, il a dit quoi?
Oui, il était en colère. Il a dit, on écoute un morceau. Donc face à ces quelques invités d'honneur, il a dit, penser qu'une race et une civilisation sont supérieures et entendre influencer ou remplacer les autres civilisations est stupide. Mettre en œuvre de telles idées aurait des conséquences catastrophiques.
C'est
voilà
dit.
La réponse.
Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Avec la rédaction en anglais, revenons aux élections européennes, plus particulièrement au Brexit, mais sous un autre angle. Alison Heard, la France pourrait perdre des conseillers municipaux de qualité en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne?
Oui, vous savez combien de conseillers municipaux britanniques il y a en France?
Non.
Bon, 900.
900.
Ouais, 900
britanniques siègent?
Ouais. Ouais,
ouais. Ah oui.
C'est étonnant, hein.
Ouais.
Donc c'est un sujet. En fait, j'ai fini par trouver ça. C'est évidemment, c'est pas de la grande géopolitique comme on vient de parler, mais c'est pas mal. J'ai appris plein de choses sur la France. Donc il y a à peu près un 500 000 de conseillers municipaux et voilà 900 britanniques. Ils ont le droit de se porter candidat parce qu'ils sont membres de l'Union, mais si jamais le Royaume-Uni quitte l'Union le 30 octobre, ils perdront leur citoyenneté européenne. Ils ne seront plus éligibles au prochain municipal en 2020.
À moins de prendre la nationalité française.
Exactement, certains l'ont déjà fait.
Qui sont ces conseillers?
Ils habitent souvent dans des régions où il y a pas mal de Britanniques, dans des régions où ils ont des résidences secondaires, par exemple,
dans
le
Loir-et-Cher, dans le Gers.
Voilà, un peu en Normandie, en ouais. Bretagne, etc. Souvent, ils sont venus en France pour avoir une belle maison, une résidence secondaire. Et par un mot, ils sont restés.
Et vous en avez trouvé un?
Oui, j'en ai trouvé un qui s'appelle Donna O'Brien. Il est conseiller municipal dans la petite commune de Sainte-Outry, c'est dans le Cher, population 215. Et on va écouter un petit peu.
They wanted somebody they felt that could bring a different point of view as well, sort of somebody from the outside.
I think alors, que vous a-t-il dit?
Voilà, donc il explique qu'il était un peu choisi un jour comme ça, le maire est venu toquer à sa porte. Et c'est peut-être parce qu'il a une formation de scientifique, il travaille dans une grande boîte pharmaceutique internationale, il est très à la pointe sur des questions de santé et aussi d'informatique. Et dans un petit village comme ça, qui est avec une population vieillissante, où ça devient un désert médical. Il a vraiment beaucoup de compétences à proposer, donc il met tout ça au service de la commune. Il est bénévole, bien sûr, comme tous les conseillers municipaux. Il a aussi un petit groupe de musique rock et il joue des tubes.
Et puis c'est un philanthrope aussi. Il veut rénover l'église.
Oui, oui. Il fait du crowdfunding pour essayer de rénover une belle église du 12e siècle.
Et ça coûte combien tout ça?
1 million.
1 million d'euros?
Oui.
Bon, il aime bien la France. Merci Alison Hurd de la rédaction en anglais de RFI. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité du monde. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.